On se penche à nouveau sur cette panne géante à la gare de Montparnasse à Paris. Quelle leçon doit tirer la SNCF? Quelle leçon informatique, puisque l'on a évoqué un bug? Et pour parler de ce bug et pour parler des bugs qui affectent de plus en plus d'entreprises, je reçois Daniel Glasman. Bonjour Daniel Glasman.
Bonjour.
Je peux avoir deux manières de vous présenter. Je peux dire que vous êtes une star du logiciel, ça tout le monde le comprendra. Je peux dire aussi que vous êtes le co-chairman du groupe de travail CSS du W3C. Vous travaillez sur un successeur de NVU, mais il va falloir que vous traduisiez ces mots-là.
Oui, d'abord j'étais co-chairman du CSS NVU, je ne le suis plus. Et NVU et son successeur, mon produit actuel Blue Griffon, est un éditeur de pages web et de livres électroniques. Voilà, c'est le seul qui soit disponible au grand public.
Bon, comprennent ceux qui savent. En tout cas, vous connaissez parfaitement Internet et le logiciel Daniel Glasman. Qu'avez-vous compris de cette panne informatique à Montparnasse, puisque les journalistes qui n'y connaissent pas grand-chose disent que c'est un bug informatique. Vous qui vous y connaissez, quel sens avait cette panne?
Alors, un bug informatique tel que ça a été présenté, ça peut regrouper beaucoup de choses. Il faut se dire que c'est une mise en production, c'est-à-dire qu'on a préparé quelque chose, on a préparé un gros changement. Il a été annoncé qu'il a été mis en place un des week-ends les plus creux de l'année, donc c'est clairement quelque chose qui était assez critique, assez difficile, pour probablement très important, avec des risques, et on a prévu ce week-end-là exprès. Une mise en production, c'est comme pour tout, c'est comme quand on prépare un produit, quand on prépare une émission, j'imagine. On prépare tout, on évoque toutes les possibilités, je pense pas qu'on évoque le décès de quelqu'un en cours de matinée pendant l'émission, mais on prépare tous les scénarios de test possibles, on évacue toutes les possibilités d'erreurs, on prévoit des retours arrière en cas d'échec, en cas de bug, etc. Et on bascule en production. Et dans ce basculement en production d'une nouvelle version du logiciel, probablement, il y a eu soit une erreur dans le logiciel lui-même, soit un matériel qui, lorsqu'on l'a éteint et qu'on l'a rallumé, apparemment ce sont des matériels anciens qui datent de 1989, si j'ai bien écouté Monsieur Jantet hier soir.
Et oui, c'est ça, parce qu'on a appris hier
incidemment...
Et là,
ça peut-être pas remis en marche.
Mais c'est ça, parce qu'on a appris incidemment, Daniel Glasman, que ce logiciel extrêmement moderne était censé tourner sous Windows 2.1, et Windows 2.1, c'est... 1989.
Alors, c'est 1989, mais Windows 3 date de 1990, si mes sources sont bons. Alors, je sais pas si c'est sous Windows 2.1, si vous avez des informations très
non,
bien.
Non, mais c'est ce qu'on a lu hier, donc en fait, ça ne serait pas si moderne que cela.
Alors, c'est pas parce que c'est pas moderne que c'est pas efficace. En informatique, c'est comme ailleurs, on change pas une équipe qui gagne. Quand un logiciel est stable, stabilisé et qu'il n'y a pas de soucis, on n'a aucune raison de changer. En particulier pour des choses aussi compliquées que ce qui s'appelle le contrôle commande. Alors le contrôle commande, c'est tout ce qui gère les ordres entre des centrales et des postes déportés, comme on peut en avoir à la SNCF, dans la téléphonie, à EDF, dans les grandes utilities. Et le contrôle commande, c'est des choses qui sont absolument critiques. Une fois que ça marche, une fois que c'est validé, on touche plus, on évite de toucher, et des codes peuvent durer 30 ans. Je me rappelle que chez Boeing ou chez EDF, en 2000, il y avait encore du Windows 3 et qu'on n'envisageait surtout pas de toucher.
Mais alors, dites-moi, parce que vous dites finalement, ce qui est ancien et ce qui marche bien, il ne faut pas y toucher, mais bien souvent pour les consommateurs, on les oblige à passer sur de nouvelles versions. Je pense pas seulement à Windows, mais à Windows aussi, qui marche de moins en moins bien, ou qui, en tout cas, pose des problèmes à chaque fois. Finalement, est-ce que ça n'est pas justice qu'il y ait aussi des bugs dans les grandes entreprises, Daniel Glasman?
Alors, tout à fait. Je vous rappelle que le logiciel n'est pas encore écrit par des logiciels, il est écrit par des êtres humains. Les êtres humains sont faillibles. On commence à avoir des langages de programmation qui nous permettent de commettre moins d'erreurs. Mais un humain est faillible et je ne vois pas dans un futur proche, sauf peut-être pour l'aéronautique à cause des preuves de programme, c'est-à-dire des choses qui coûtent des vraies fortunes, des logiciels moins faillibles.
C'est-à-dire, justement, on imagine qu'il y a donc une spécificité des codes informatiques pour les avions, par exemple. J'ai vu qu'il y avait 30 millions de lignes de code pour un logiciel de pilote automatique pour un avion, qu'il y en aura 200 millions pour un logiciel permettant une voiture dite autonomes. Mm-hmm. Comment sont faites ces lignes de code? Est-ce que c'est des gens comme vous qui les écrivent ligne à ligne?
Oui. Absolument. C'est des gens comme moi, c'est-à-dire des grands malades qui vivent dans leur cave, j'exagère un petit peu. Mais oui, ce sont des êtres humains qui écrivent les lignes de code et certains de ces logiciels sont quand même des logiciels à auto-apprentissage. On n'est pas capable de décrire la totalité des comportements de tous les automobilistes, pour reprendre le coup des voitures autonomes. Donc on fait rouler ces voitures autonomes sur des circuits bien particuliers. Elles acquièrent de l'information sur les comportements, sur les routes, sur les manières de tourner, etc., etc. Et elles s'auto-adaptent en fonction des comportements qu'elles détectent. Mais à la base, le programme d'acquisition des données et de restitution des données sur la conduite elle-même, oui, il faut bien qu'il soit écrit par des humains. Et un humain est faillible.
Et du coup, comment vous faites pour que ces logiciels qui sont utilisés par des grandes entreprises, dans des situations où les risques sont extrêmement coûteux en vie humaine ou en argent, comme par exemple un avion, comment fait-on pour que ces logiciels soient plus sûrs que d'autres?
Alors il y a deux manières, il y a ce que je disais juste avant, donc utiliser des langages et des modèles mathématiques permettant de garantir que le logiciel va s'exécuter correctement et conformément à l'attente. Donc on en avait parlé la dernière fois que j'étais passé dans votre émission, c'est Patrick Couzeau qui a développé ce genre de choses pour l'aéronautique. Ça c'est la première chose, améliorer les systèmes de programmation. Et la deuxième chose, et c'est là à mon avis que le problème c'est vu à la SNCF, c'est le test et la validation. Alors, faire des environnements de test et des simulations de programmes, c'est une chose, mais au bout d'un moment, quand on est à la SNCF, il faut bien essayer sur des aiguillages, des rails et des trains. Et là, simuler, ça me semble assez compliqué, quoi. Donc, je jette pas trop la pierre à la SNCF. Parce que c'est très difficile. Ils ont relativement bien réagi. Corriger en 2 heures, c'est très rapide. Faut se remettre un petit peu dans le contexte. C'est relativement rapide.
Quand on est un enfant de la balle, qu'on connaît bien l'informatique, on se dit que c'est une belle performance.
Ça c'est bien fait. Je comprends parfaitement qu'ils aient pas pu relancer dans la soirée, parce que relancer une grosse machine comme ça avec tout le trafic des trains, ça se fait pas comme ça. En sécurité, il faut quelques heures. Maintenant, ce qui n'a pas été dit, et j'aurais bien aimé savoir, c'est quel est le prestataire de service qui a écrit la ligne de code? Parce qu'à mon avis,
ça veut dire? Parce que pour vous, c'est parlant, mais pour le grand public,
j'imagine.
C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise comme la SNCF, elle n'écrit pas ses logiciels elle-même.
Rarement. Elle fait intervenir des sous-traitants.
Il y en a beaucoup des sous-traitants capables d'intervenir pour la SNCF.
Alors, à ce niveau de code, il me semble me rappeler qu'en 2014, la SNCF ou le réseau ferré de France, je ne sais plus évidemment depuis la division, avait signé un énorme contrat avec Atos pour la refonte de son système qui devait s'appeler Mistral NG, donc nouvelle génération qui faisait suite à Mistral lui-même développé avant. Donc je ne peux pas vous dire si c'est ce logiciel-là qui a présenté une erreur, mais il me semble relativement logique d'imaginer que c'est pas la SNCF ou un personnel de la SNCF qui a planté ou qui a commis une erreur dans une ligne de code, mais plutôt un sous-traitant qui a commis une erreur dans une ligne de code. Encore une fois, commettre une erreur, ça arrive à tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer les procédures de test pour éviter le bug? C'est là-dessus qu'il faut travailler.
Ça ressemble à quoi le système informatique de la SNCF? Vous qui avez travaillé pour une grande entreprise française qui apporte de l'électricité dans beaucoup de foyers, Daniel Glasman, est-ce qu'on a affaire à un logiciel qui est intégré? Parce que lorsqu'on est face à une panne de ce type, on se demande si finalement il pourrait y avoir une panne telle que la totalité des systèmes de la SNCF ou d'une autre grande entreprise puisse être affectée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un scénario plausible pour vous qui êtes l'un de ces artisans de l'industrie du logiciel?
Alors, j'espère bien que non. Tout système est faillible, donc il me semble qu'il y a eu au moins un engin spatial, c'était pas un Apollo, qui avait 3 ordinateurs, dont 2 avaient planté, ils sont basés sur le 3e, in fine. Ça s'appelle la redondance. J'espère bien que la SNCF a des redondances, et que si un système plante, ils ont une copie, ce qu'on appelle un backup, qui est capable de prendre le relais. Qu'est-ce que c'est comme système? C'est des grosses machines avec du temps réel. On travaille en microsecondes, on a en s'interface avec des aiguillages et des relais partout en France. On transmet des informations de tous les côtés. Ce sont des systèmes d'une complexité folle.
Est-ce qu'il y a donc il y a la question de la redondance qui est donc la question d'avoir un filet de sécurité. Si un système plante, on en a un autre. Il y a aussi une autre question, Daniel Glasman, c'est le fait de se demander si l'interdépendance des systèmes informatiques est aujourd'hui de nature à causer des risques supplémentaires.
Bah, Terminator arrive. Non, plus sérieusement. Oui, il y a des risques d'interdépendance. On sait tous que lorsque un réseau est connecté à Internet, à la minute où on le connecte, il y a des tentatives d'intrusion, qu'une machine Windows connectée en direct sur Internet fera l'objet d'une tentative d'attaque dans les 3 secondes qui suivent.
Dans les 3 secondes.
Ah oui, oui. Donc, on fait tout simplement attention à ce genre de choses. Il existe des réseaux critiques pour les professionnels qui ne sont pas connecté, qu'on ne relie à rien d'autre, tout simplement pour éviter ce genre de choses.
On se rend compte, Daniel Glasman, que dans l'actualité, il y a de plus en plus de problèmes qui sont liés à des pannes informatiques. Alors, vous les qualifierez mieux que moi. Par exemple, on a décidé de mettre en ligne la fabrication des cartes grises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour obtenir la carte grise d'un nouveau véhicule, au lieu d'aller en préfecture, on peut le faire via Internet, et demain, probablement, on ne pourra le faire que via Internet, mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, et aujourd'hui, à la fois pour le permis de conduire et les cartes grises, le logiciel ne donne pas satisfaction. Écoutez.
L'Agence nationale des titres sécurisés. Depuis son lancement début novembre, les problèmes techniques se multiplient. Sans compter les difficultés d'envoi en ligne des documents, justificatifs de domicile, formulaires de demande, contrôle technique et documents d'identité. Pour les associations d'automobilistes, la simplification administrative s'est faite en dépit du bon sens.
Ça a été extrêmement compliqué pour certains qui n'avaient pas vu venir la date et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à aller en préfecture avec leur dossier. À qui on a dit, c'est terminé, maintenant il faut passer par Internet.
Des difficultés aussi pour les écoles de conduite. À Toulouse, celle-ci ne parvient plus à inscrire ses élèves pour le passage du permis de conduire. Le site, là encore, est à l'origine du blocage.
On est complètement bloqué dans nos démarches d'enregistrement des dossiers. Puisque tous les dossiers qui étaient préenregistrés sur le site de la NTS ont totalement disparu.
Résultat, des élèves qui annulent leurs cours de conduite et un manque à gagner pour les auto-écoles qui prévoient un mouvement de contestation nationale dans les prochaines semaines.
Alors ça, c'est un reportage qui date du 11 novembre. Depuis, les choses se sont améliorées pour le permis de conduire, mais elles ont empiré pour les cartes grises. Le Parisien, aujourd'hui, explique qu'il y a 100 000 demandes de cartes grises en souffrance suite donc à cette procédure désormais informatisée pour l'obtenir via Internet. Est-ce que vous comprenez ça, Daniel Glasman? Parce que on se dit que quand même, faire une demande de carte grise sur un site internet, c'est pas quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en œuvre.
Vous voulez que je vous dise que l'incompétence est universellement distribuée?
C'est
très franchement, quand on prépare un service, on imagine la charge. On prépare toute la chaîne. Je veux dire, demander une carte grise, oui, c'est un site web, c'est très bien pour centraliser les demandes. Et puis il y a l'imprimerie derrière, il y a les envois. On prévoit toute la chaîne. Ça signifie que soit il y a un problème d'exécution, c'est-à-dire de réalisation, soit il y a un problème de contrôle par le maître d'œuvre. Enfin bref, il y a un problème dans la gestion du projet et dans la réalisation du projet. Ce genre de choses doit pas arriver, tout simplement. C'est anormal.
Lorsque ça arrive...
On est très fort pour ça en France, hein, de toute manière.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des industries du logiciel en fonction donc des pays qui marchent mieux que d'autres ?
Alors oui et non, c'est la même cata partout, mais en Europe et en particulier en France, l'informatique est considérée comme une commodité. L'ingénieur informaticien est payé au lance-pierre. On le considère comme une petite main, un technicien et pas un ingénieur. Ce qui fait qu'on tire les prix des développements logiciels et des choses comme ça vers le bas, pendant que des sociétés de services s'engraissent sur le dos de leurs employés. Je suis désolé d'être un petit peu vacharme, mais c'est la vraie réalité.
Là pour dire ce que vous pensez.
Je vais être grossier, mais quand on vous demande de la merde, vous faites de la merde si c'est payé pour de la merde. Donc voilà, ça donne de la merde. Et on met pas assez de moyens sur le tapis avec une assez grande gestion de projet, avec des gens qui sont habitués à manipuler ce genre de grosses structures. en qualité. Et si on arrivait à faire ça, ça marcherait du premier coup. On n'imagine pas Amazon sortir un nouveau rayon sur son site, que dès le lendemain, des millions de clients se précipitent sur le nouveau rayon de je ne sais pas quoi qui vient d'apparaître, et que rien ne marche.
Est-ce que vous êtes en train de dire que les sites web marchands, par exemple ceux de multinationales comme Amazon, sont plus sûrs en termes donc d'absence de panne, de bugs, que des sites tels que ceux qui peuvent, par exemple, permettre d'obtenir, ou en l'occurrence ne pas obtenir, sa carte grise en ce moment?
Alors, ils ont des bugs comme tout le monde, mais eux, ce sont des sociétés commerciales. Quand ils mettent des moyens, ils mettent des moyens. On n'envisage pas, j'imagine, dans une entreprise comme Amazon, l'échec d'un logiciel comme celui de la paye des militaires, qui était Louvois, qui n'a jamais marché, et qui, si je crois, est retiré du service. On passe à autre chose. Après des centaines de millions d'investissements. C'est pas possible, un truc comme ça.
Justement, on écoute un reportage sur ce fameux logiciel qui a été un autre échec dans l'administration française. On l'écoute.
La Défense va faire une croix sur 78 millions d'euros. Le logiciel Louvois a parfois fait preuve d'une grande largesse. Pendant que certains militaires ne percevaient aucune solde, d'autres voyaient la leur tripler. Au total, ce sont 534 millions d'euros qui ont été indûment versés. Le ministère de la Défense a péniblement récupéré 344 millions, mais hier, devant le Sénat, un responsable du ministère a reconnu que certaines sommes demandées ne pouvaient être justifiées clairement. Conséquence, 78 millions et demi d'euros ne seront pas récupérés.
Votre réaction, Daniel Glasman, vous qui êtes partie prenante dans l'industrie du logiciel, lorsque vous entendez par exemple cet autre ratage avec ce logiciel qui devait payer les militaires et qui ne parvenait pas à les payer?
J'en ai deux. La première, je trouve que ce sont des montants hallucinants.
C'est-à-dire?
La première chose, des centaines de millions d'euros pour un logiciel comme ça, je suis pas sûr que le ministère de la Défense ne se fasse pas très méchamment avoir et les contribuables avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de ce que j'ai lu de la gestion de projet sur ce logiciel, elle a été absolument catastrophique. Où, en cours d'écriture du logiciel, on découvrait encore des fonctionnalités et on discutait avec les acteurs du ministère de la Défense, en particulier les gens qui s'occupent de la SOD, le commissariat de l'armée de terre, et on découvrait des spécificités de la paye des militaires qui est extrêmement compliquée. C'est des gens qui partent en opération, qui ont des primes, qui ont des déplacements, etc., qui ont des conditions particulières, et on modifiait les fonctionnalités du logiciel en cours de réalisation. Alors, quand on fait ça en mode agile sur des softs liés à l'internet,
le mode agile,
c'est-à-dire c'est un mode de développement qui est un mode adaptatif. Bon, ce sont des nouvelles manières d'écrire des softs, des logiciels, mais qui sont pas adaptés à n'importe quoi. Là, je pense pas qu'on aurait pu le faire. Il fallait définir tout le cahier fonctionnel avant et réaliser derrière sur la base de quelque chose de stable. Visiblement, ça a pas été fait correctement.
Dernière question, Daniel Glasman, de la SNCF à Louvois, en passant par le logiciel pour les cartes grises, on voit bien qu'on a aujourd'hui affaire à des pannes, c'est-à-dire des erreurs commises par un bout de la chaîne. On n'a pas encore d'attaque. Est-ce que vous pensez que l'on va bientôt assister à des désorganisations majeures d'entreprises, de grandes entreprises, par le biais de hackers ou de différents pirates informatiques?
Non, pas du tout. Ça, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Il y aura tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours des erreurs dans les logiciels, l'humain est faillible, et il y aura toujours des hackers pour essayer de les trouver et d'en profiter. C'est le jeu du chat et de la souris, ça diffère absolument pas d'une maison et d'un cambrioleur. On met un système d'alarme, il y a toujours un cambrioleur qui essaye de tourner autour. Mais à partir du moment où les services deviennent critiques, où on fait entrer l'informatique dans des choses de plus en plus dangereuses, à mon sens, c'est pas le hacking qui est le plus grave, c'est l'erreur de logiciel qui va perturber un service d'envergure nationale ou internationale et générer une véritable catastrophe, une coupure de courant, des signalisations qui plantent complètement, la distribution d'eau qui s'arrête, enfin des choses comme ça. Voilà. Mais non, je pense pas que ça change plus la donne. Il faut être plus vigilant, c'est tout.
Merci beaucoup, Daniel Glasman, de nous avoir éclairé sur ce qu'était un bug informatique et sur la manière dont celui-ci pouvait influer sur une entreprise comme la SNCF.